À deux semaines pile du premier tour des législatives, c'est peut-être l'effet pont de l'ascension, mais la campagne peine à décoller. Il est loin le souffle de 2017 et sa légion de néo-candidats en marche. Le début du second mandat d'Emmanuel Macron ne suscite pas le même enthousiasme. Et celui qui fait le plus parler de lui, c'est Jean-Luc Mélenchon et sa folle ambition, ou pas, on va en parler, de devenir Premier ministre.
Ça s'est passé sous Monsieur Mitterrand, ça s'est passé sous Monsieur Chirac. Donc il n'y aura pas de difficulté du moment qu'il y a une majorité de députés de l'ANUPS.
Une chose est sûre, Jean-Luc Mélenchon ne siégera pas dans la nouvelle Assemblée. Zoom ce soir sur les députés qui jettent l'éponge. Comme Christian Jacob, président de LR, 6 mandats au compteur. Il sera le fil rouge de la semaine politique de notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière.
Moi je suis convaincu que ces législatives vont être pour nous l'occasion d'un rebond.
On parlera aussi du RN, qui pour la première fois depuis 35 ans, quand il s'appelait encore le FN, devrait avoir un groupe à l'Assemblée. Si vous ne savez pas pour qui voter, bonsoir Alex Darmon.
Bonsoir.
Dans All Like Citoyen, vous nous parlez d'une appli qui peut nous aider.
Oui, on va swiper politiquement, je vous expliquerai ce que ça veut dire.
Magnifique. Bonsoir Thomas Legrand.
Bonsoir Corinne.
Au programme des Bobineaux.
Croire ou ne pas croire la parole des victimes de violences sexuelles, on a beaucoup évolué.
Qu'il y ait une imprudence, on peut pas le... je sais pas comment dire... Un troussage, qu'il y ait un troussage de domestiques, je veux dire, ce qui est pas bien.
Je pense que tout le monde se souvient de l'affaire en question DSK en 2011. Et avec nous jusqu'à 19h, Ava Djamchidi, bonsoir.
Bonsoir Corinne.
Grand reporter à elle, vous couvrez l'actualité politique et vous venez de publier avec François-Xavier Ménage chez Robert Laffont, l'intrigante Sarah Knafo, la conseillère et compagne d'Éric Zemmour, et Ludovic Vigogne, bonsoir.
Bonsoir Corinne.
Journaliste politique à l'Opinion, où vous suivez particulièrement la droite. À la réalisation ce soir, Frédéric Milano et à la technique, Guillaume Roux.
Un dimanche de campagne. Corinne Audouin sur France Inter.
Il continue de marteler son message. Élisez-moi Premier ministre pour une reparlementarisation. C'est le titre de la tribune de Jean-Luc Mélenchon paru jeudi dans Libération. Il veut refaire le match de la présidentielle en présentant les législatives comme une sorte de troisième tour où une majorité de gauche l'emmènerait, lui, aux portes de Matignon. Ce qui a le don de mettre en rogne les soutiens d'Emmanuel Macron. Écoutez Carl Olive, le maire de Poissy, candidat à l'REM dans les Yvelines, interrogé sur CNews.
Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais Premier ministre. Il faut le dire. Je ne lis pas dans le marc de café, mais moi je peux vous mettre un petit billet. Il ne sera jamais Premier ministre. Ben, c'est un programme de truand. Mais quand on dit qu'on veut être Premier ministre, qu'on a fait 3 défaites consécutives à la présidentielle, qu'on ne se présente pas à la députation, non mais moi je pense qu'il y a du garcimore aussi chez Jean-Luc Mélenchon.
Même énervement au RN où on revendique le titre de futur premier opposant à Emmanuel Macron, Sébastien Chenu, député RN et candidat à sa réélection dans le Nord, ce matin sur France Info.
Non mais Jean-Luc Mélenchon, tout le monde a compris qu'il sera jamais Premier ministre, éventuellement premier mytho de France. Enfin, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Il n'y a pas un sondage qui explique que Jean-Luc Mélenchon peut gagner la majorité. D'ailleurs, lui-même est plutôt en fin de carrière. Il n'est même pas candidat à ces élections, donc il ne mènera pas l'opposition.
Il faut une certaine audace pour que quelqu'un qui a été battu à une élection où il était candidat puisse penser qu'il sera élu à une élection où il n'est pas candidat. La pique, encore une, est bien tournée. Elle est signée de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Réponse du leader de la France Insoumise sur BFM.
De l'audace, il en faut. Et il en a fallu dans l'histoire à des moments où c'est elle qui a fait la différence. Donc, j'ai de l'audace. Alors, je ne suis pas candidat à l'élection législative parce que ça serait la 7e fois que je serai parlementaire. J'estime que j'ai déjà légèrement dépassé la limite. Quant à monsieur Édouard Philippe, eh bien il aura le droit de s'occuper de l'opposition en ce cas-là, et c'est bien parce que il est pas candidat à être dans l'opposition.
Voilà le sujet Mélenchon encore sur la table cette semaine politique. Alors mythomane, mégalomane, visionnaire, Jean-Luc Mélenchon en tout cas assume ses ambitions. Alors est-ce qu'on est dans une forme de prophétie autoréalisatrice ou est-ce que c'est quand même possible? Avec qui on commence, Thomas Legrand?
Mais il faut parler mécanique un peu électorale parce que Jean-Luc Mélenchon et la NUP, on le vend en poupe, ils peuvent arriver en tête, c'est-à-dire la fameuse tripartition, il y a 3 blocs, et ça peut être le premier bloc, certains sondages le donnent, et puis en plus il y a cette dynamique. Mais Il se trouve que dans cette... Il faut rappeler les règles hein, pour ces législatives. C'est comme 577 petites élections présidentielles, on le répète à chaque fois, sauf qu'il y a une différence. Peuvent se maintenir les deux premiers, plus ceux qui ont fait 12,5% des inscrits. Or, on estime que la participation ne sera que de 45, peut-être 50%, ce qui fait la clé de qualification, je ne sais pas si vous me suivez, autour un peu plus de 25%. Donc, il n'y aura que des duels.
Il n'y aura pas triangulaire.
Ouais. Et sans triangulaire, ça va être très compliqué, même s'ils arrivent en tête, parce que le candidat, mécaniquement, le candidat central, si c'est un candidat En Marche ou de Renaissance, a toutes les chances de l'emporter au second tour face à un candidat de la radicalité de droite ou de la radicalité de gauche, puisqu'il n'y a que ça, puisque effectivement, c'est parce qu'ils sont centrales, dit centrales plus que centristes, mais ils sont centraux, et donc, comme ils sont centraux, ils réunissent au deuxième tour plus facilement. Et ça peut être un peu électoralement compliqué, c'est pour ça qu'on regrette qu'il n'y ait pas de proportionnel, parce que il se peut qu'à la fin du match, alors que la NUP est... Si, imaginons, je dis ça au hasard, la NUP fasse 28 au premier tour au niveau national, et que les partis autour de la majorité présidentielle soient autour de 26-27, eh ben, il y a quand même toutes les chances pour que la majorité présidentielle ait une majorité. C'est mécanique. Quand vous êtes plus centraux, quand vous êtes plus rassembleurs, ben vous êtes plus rassembleurs. C'est aussi une règle démocratique normale que ceux qui sont un peu au milieu et qui essayent de prendre les avis de tout le monde soient plus rassembleurs. C'est plus facile pour les centraux de gagner que pour les marginaux, mais les radicaux.
Est-ce qu'il y a un effet aussi sortant ? Parce qu'on vient quand même d'élire Emmanuel Macron. Donc logiquement, la majorité suit. C'est ce qui se passe en général, Ava Djanchibi.
Oui, c'est ce qui se passe en général. Et puis on dit aussi que souvent le camp du vainqueur se mobilise lorsque le camp des perdants se démobilise. Mais là, c'est pas tout à fait le cas quand même.
C'est une règle qui s'est
reproduite au gré de chaque élection. Là, on est dans le scénario d'une réélection, donc peut-être ce sera un peu différent. En tout cas, c'est très compliqué d'en vouloir à Jean-Luc Mélenchon d'essayer de faire vivre le débat politique dans cette campagne qui est, vous l'avez rappelé, totalement atone et un peu austère. Et puis lui occupe cet espace d'autant plus qu'il est bon, il a personnalisé quand même l'enjeu de cette
élection. C'est génial l'idée de dire élisez-moi Premier ministre.
Ah, c'est malin, on l'avait pas entendu avant. Ouais. Et puis il fait vivre quand même cette idée. Et ce qui est assez intriguant et étonnant par contraste, c'est de voir que la Macronie n'a pas tellement fait campagne dans le cadre de la présidentielle. Ils se sont quand même beaucoup contentés d'agiter une forme de péril fasciste. Et désormais là, l'intégralité de la campagne de la Macronie consiste à agiter ce péril mélenchoniste incarné par la seule figure de l'opposition qui fait véritablement campagne contre eux. Donc ça interroge quand même sur la manière d'emmener le débat du côté de cette majorité présidentielle.
Est-ce qu'il occupe l'espace laissé vacant finalement, Ludovic Vigogne ?
Oui, c'est sûr qu'il a même lancé sa campagne, il n'a pas attendu que l'élection présidentielle soit terminée. L'opération Mélenchon-Premier ministre, elle a commencé dans l'entre-deux-tours. Donc c'est quelque chose qu'il mène, il va jusqu'au bout de sa stratégie, avec une certaine efficacité, effectivement. Alors, et aucun expert électoral ne pense que Jean-Luc Mélenchon aura 280 et la NUPES auront 289 sièges pour avoir la majorité absolue, exactement, à l'Assemblée nationale. Il n'empêche qu'il aura un minimum de 150 sièges, peut-être 180, 190, ce qui sera déjà une sacrée performance. Il faut rappeler que aujourd'hui, les insoumis, les communistes et les socialistes, c'est 60 sièges à l'Assemblée nationale. Donc ce sera quand même une progression considérable. Alors, Jean-Luc Mélenchon ne réussira pas ce pari-là, mais il est en passe d'en réussir un autre. C'est-à-dire que pour s'en sortir lors d'élections législatives, il y a une recette qu'il faut jamais oublier, c'est qu'il faut mobiliser son électorat du premier tour. En 2017, Jean-Luc Mélenchon n'y était pas parvenu. Il avait fait 19,8% au premier tour de l'élection présidentielle. Au premier tour des législatives de juin 2017, il avait eu 11%. Bon, bah là, on voit que dans les sondages, le score de la NUPES, Thomas le rappelait, c'est à peu près 28%. Bon, c'est grosso modo l'agrégat des scores de Mélenchon, d'Hidalgo, de Roussel et de Jadot. Donc c'est déjà une très belle performance d'avoir réussi à ne pas subir de pertes, ce qui va être visiblement le cas de Marine Le Pen et peut-être même d'Emmanuel Macron.
On est très affirmatif parce que on raisonne sur les modèles qu'on a observés, sur le fait qu'il ne peut pas gagner. J'ai expliqué la mécanique électorale, vous avez expliqué la mécanique politique, mais
C'est jamais en même temps.
Non, pour qu'il gagne,
il y a
une petite possibilité. Pour qu'il gagne, il faudrait le scénario suivant. Il faudrait qu'il y ait un effondrement vraiment de la Macronie, que les gens qui ont voté Emmanuel Macron ne se mobilisent pas du tout, et qu'il y ait une multiplication de duels RN. RN, la France Insoumise, c'est un peu compliqué parce que c'est pas dans les mêmes circonscriptions. La France Insoumise, en fait, son score de 28%, il est mal réparti sur le territoire, il est réparti dans les villes, et donc même ça reste très compliqué. Mais c'est la seule petite hypothèse.
Merci, on termine sur ce thème pour aujourd'hui. On précise que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas dans la nouvelle assemblée, puisque je l'ai dit, il ne se représente pas, donc il aspire à diriger l'opposition, on suppose, s'il n'est pas Premier ministre, de l'extérieur de l'Assemblée, ce qui est quand même aussi assez original. Alors pendant ce temps-là, le nouveau gouvernement travaille, en tout cas c'est ainsi qu'il se met en scène. Vendredi matin, en plein pont de l'Ascension, Elisabeth Borne a réuni ses ministres pour un discours de la méthode.
J'ai donné à mon gouvernement trois mots d'ordre: rapidité, efficacité et résultat. Nous nous réunirons en séminaire gouvernemental autour du président de la République avant la fin du mois de juin. De mon côté, je réunirai les ministres dans ce format à Matignon chaque mois.
Alors voilà pour le discours, je l'ai dit, essentiellement sur la méthode, puisqu'en attendant le nouveau Parlement, difficile d'avancer, les deux textes de loi sur le pouvoir d'achat seront présentés en Conseil des ministres après les élections. Et ce sentiment d'attente contamine un petit peu toute la campagne. Le premier tour est dans deux semaines, on l'a dit, et on a commencé à l'aborder. La réélection d'Emmanuel Macron et ce gouvernement d'Elisabeth Borne ne suscite pas vraiment d'enthousiasme. Il n'y a pas l'élan de 2017, c'est un euphémisme. Pourquoi ça ne décolle pas? Il n'y a pas d'effet de souffle, il n'y a pas d'effet waouh, comme l'avait dit Emmanuel Macron, Ludovic Vigogne.
Mais déjà, il n'y a pas d'effet de nouveauté. On le sait, Emmanuel Macron est un président sortant, les Français le connaissent, il n'y a pas l'effet, la dynamique, la curiosité qu'il pouvait y avoir en 2017 vis-à-vis de lui. Il y a ensuite une absence de dynamique engendrée par le nouveau gouvernement, il n'y a pas eu de figure majeure, d'icône médiatique comme Nicolas Hulot avait pu être en 2017, il n'y a pas eu le sentiment de prise de guerre comme Emmanuel Macron avait réussi à le faire en débauchant Édouard Philippe et Bruno Le Maire des Républicains. Et
donc, il y en a une, mais bon.
Oui, on en parlera tout à l'heure, sans doute. Mais et donc là, effectivement, on a plutôt le sentiment que le gouvernement, que l'exécutif est en défensive plutôt qu'en offensive. Il doit se débattre. L'affaire Abad a éclipsé tous les débuts de la nouvelle équipe autour d'Elisabeth Borne. Là, désormais, depuis ce week-end, il y a la polémique autour de la finale
des incidents d'hier
au Stade de France.
La finale de la Coupe de la Ligue des Champions.
Et étonnamment, Emmanuel Macron a fait pour l'instant le choix de peu intervenir, de peu se montrer, de peu dire.
Et il a passé le week-end de l'Ascension à Brégançon, à passer des coups de téléphone à des chefs d'État. Il a remis un petit peu son costume de chef d'État, un petit peu en dehors, je ne me mêle pas de la campagne.
Oui, mais malgré tout, c'est un choix qui peut être risqué, parce que les Républicains ont réalisé à peu près une quinzaine de sondages dans une quinzaine de circonscriptions. Et qu'est-ce que ces sondages ont dit? Que les députés macronistes sont en moyenne en recul de 10 points par rapport à leur score au premier tour de 2017. Ça peut même être 12 points quand ces candidats macronistes faisaient autour de 38-40%. Donc c'est extrêmement dangereux pour les candidats macronistes. Les configurations des seconds tours, Thomas y faisait allusion tout à l'heure, sont extrêmement incertaines. On a bien vu, la tripartition fait que tout le monde est un peu au coude à coude. Et donc, qui sort dans une élection où il y a très peu de participation au second tour, c'est assez difficile à pronostiquer. Et donc, c'est un risque pour les députés macronistes, pour des candidats macronistes, de ne pas être au second tour alors qu'ils pensaient l'être.
Avad Janchidi, je vais y arriver. D'ici la fin de l'émission, je dirai votre nom correctement, c'est promis. Il y a le choix d'une campagne courte avec cette nomination tardive du gouvernement et finalement un peu d'attentisme. On se dit, on attend que ça passe du côté effectivement de la majorité.
Il y a un peu ça, mais on peut pas imaginer que Emmanuel Macron soit laissé comme ça avoir par le calendrier, que c'est pas été un peu calculé. Ça lui a réussi pour la présidentielle. Là, il fait le pari de ce que certains de ses conseillers appellent l'abstention différentielle, c'est-à-dire que globalement effectivement, les électeurs sont démobilisés. Il y a un sondage du JDD qui rappelait aujourd'hui que, IFOP, pardon, le sondage, que plus d'un électeur sur deux déclare ne pas avoir l'intention de voter. Or, l'électorat d'Emmanuel Macron est plutôt âgé, plutôt de catégorie socio-professionnelle aisée, donc qui vont se rendre aux urnes. Et c'est un petit peu le calcul qu'il fait et qui lui a déjà réussi lors de cette présidentielle.
Une forme de stratégie du pourrissement, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas de ne pas agir pour ne pas créer
de... Sans doute, ce qui est politiquement un peu déplorable, moi je trouve, mais là, on a quand même un nouveau gouvernement avec une Premier ministre que personne ne connaît vraiment, qui paraît-il est écologiste, mais en tout cas, elle ne dit rien. Mmh. On a un nouveau personnage, Pape Ndiaye, qui a des choses à dire. En tout cas, on a besoin d'éclaircissement. Il pourrait enthousiasmer une partie de la gauche macroniste, disons, et il n'a toujours pas parlé. On peut pas l'inviter. Enfin, on essaye de l'inviter, mais il ne répond pas. Il n'a aucun média. Donc, il y a cette stratégie un peu de passer en douce, de nage coulée, qui pour nous commentateurs, on commente le fait qu'il ne se passe rien, et on essaye de savoir si c'est parce qu'ils ont rien à dire ou si c'est stratégique.
Si c'est fait exprès.
Voilà, c'est passionnant.
C'est tout un art. Allez, on reparle des législatives dans quelques minutes. Qui sont les sortants? Le RN va-t-il avoir un groupe? Mais d'abord, un petit œil dans le rétro de la semaine politique.
Un dimanche de campagne sur France Inter.
Bonsoir Cyril Lacarrière.
Bonsoir Corinne.
C'est donc votre semaine politique qui revient sur l'actualité de ces derniers jours.
Le vent souffle sur cette campagne législative et cette semaine, il nous a fait entendre un bruit commencé le week-end dernier.
Si j'étais Premier ministre, je dirais à Damien Abad, je n'ai pas de raison particulière de penser que les femmes mentent. Dans l'attente d'une décision de justice, eh bien, je souhaite que tu ne sois pas au gouvernement.
Voilà, sauf qu'Olivier Faure n'est pas Premier ministre et qu'à ce stade, Elisabeth Borne ne semble pas partager son avis. Le statu quo de la Première ministre a été renforcé cette semaine par la décision du parquet de Paris qui a choisi de ne pas ouvrir d'enquête en l'état contre Damien Abad. Pour Christian Jacob, le patron des LR, il s'agit désormais d'une question morale.
Est-ce qu'il est capable de se regarder dans une glace le matin en se levant, Monsieur Abad? C'est à lui de prendre cette décision.
Et justement, Damien Abad semble bien décidé à rester en place. Il se dit prêt à se soumettre au suffrage des électeurs aux prochaines législatives. Mais pour Sandrine Rousseau, pas question que ces élections servent de juge de paix.
Ça me semble très problématique, je vais vous dire, de confondre une élection et un tribunal, quoi. On est dans un délire complet qui consiste à dire si vous m'aimez, vous votez pour moi. Si vous me défendez, vous votez pour moi. Et si vous ne m'aimez pas, vous ne votez pas pour moi. Ça n'est pas le sujet.
Le vent souffle sur cette campagne et cette semaine, il nous a fait entendre les ambitions de la NUP, celle d'enfiler les habits d'un célèbre héros.
À la fin du XIIe siècle, le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion partit pour la croisade en Terre Sainte. Pendant son absence, le perfide prince Jean usurpa la couronne. Le peuple n'avait plus qu'un seul espoir, Robin des Bois, qui détroussait les riches pour nourrir les pauvres.
La coalition de gauche a dévoilé un ensemble de mesures pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Une opération, c'est pas venu nulle part. Robin des Bois, présenté comme tel par Julien Bayou, le patron d'Europe Écologie Les Verts, assure d'ailleurs que la NUP est prête à entrer en action, si elle remporte une majorité le 19 juin.
Je peux vous promettre, et ça c'est un engagement que je prends, ce gouvernement sera plus rapide à décider, on le mettra sur pied beaucoup plus rapidement, que le mois qui a fini par prendre Emmanuel Macron.
Reste à savoir si l'incantation Jean-Luc Mélenchon Premier ministre se réalisera, on en a parlé. Christian Jacob, lui aussi, n'y croit pas une seconde, le patron des LR qui fait office de vedette américaine de cette semaine politique.
Est-ce que quelqu'un, un instant de sensé, pense que M. Mélenchon peut emporter une majorité? Bien sûr que non. C'est d'un ridicule total. Je veux dire, quand j'entends le nombre de gens qui répètent ça à l'envi, c'est d'une stupidité comme il n'en existe pas.
La droite, qui est loin, très loin, dans les intentions de vote pour ces législatives, depuis l'échec de Valérie Pécresse à la présidentielle, le ressort semble cassé chez LR. Pour Jean-Pierre Raffarin, ces problèmes ont une explication simple.
Franchement, c'est pas Macron qui a fait que Juppé, Fillon et Sarkozy se sont battus dans une primaire et qu'on a décapité la droite. Et c'est pas Macron qui a créé Éric Ciotti tout en désignant Valérie Pécresse.
La politique de débauchage, les transfuges.
On a désigné la candidate et on lui a mis le problème en face.
Mais n'allez pas enterrer LR trop vite. Christian Jacob, je vous avais prévenu qu'il serait le personnage récurrent de cette chronique, assure même que les législatives vont pouvoir relancer son parti.
Moi, je suis convaincu que ces législatives vont être pour nous l'occasion d'un rebond. Tout simplement parce qu'on a cet ancrage territorial. Ce qui nous a permis de gagner les municipales, les départementales.
Le vent souffle sur cette campagne et cette semaine, il nous a fait entendre des ministres soucieuses de faire entendre leur légitimité.
Ce qui est vrai, c'est que je n'ai jamais eu ma carte à Europe Écologie Les Verts. Mais j'ai des convictions très fortes sur le changement climatique et sur la biodiversité, parce que d'abord, je fais partie d'une génération qui est celle qui a vu déjà tous ces changements devenir concrets.
Ça, c'était Amélie de Montchalin, la ministre de la Transition écologique. Sa collègue, Agnès Pannier-Runacher, qui s'occupe de la transition énergétique, a aussi fait sa première sortie dans les médias en tant que ministre. Et elle avait envie de nous donner un conseil pour faire baisser notre bilan carbone.
Parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. On va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie. Et puis, on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Et on aura consommé beaucoup plus d'énergie.
Voilà, vous l'avez compris, il faut être responsable à tous les niveaux. Alors Thomas, je compte sur vous pour arrêter d'envoyer des mails avec des chats, des vidéos de chats trop mignons.
Oui.
Voilà ce qu'on reçoit de Thomas Legrand. C'est ce qui nous arrive dans les boîtes mails de la part de Thomas Legrand. Plus sérieusement, à celles et ceux qui se revendiquent d'une fibre écologiste, Jean-Marc Jancovici, le président du groupe de réflexion The Shift Project, propose plutôt une séance de formation sur le sujet.
Monsieur Macron pense qu'on peut changer les lois de la physique par un vote à l'Assemblée nationale. Ben, je pense que Monsieur Macron se trompe.
Dans votre
vie quotidienne, être président de la République, c'est avoir été élu. C'est pas réussir un test de connaissance.
Voilà, l'occasion pour moi de vous citer l'UJPK. Mes Nike sont faites par les Ouïghours. On fait des stories, pas de longs discours. Ça n'existe pas si c'est pas entêté. Je prie pour que le banquier me laisse m'endetter. Finalement, c'est une grosse grippe qui a tout décimé.
Merci Cyril Lacarrière pour cette semaine politique.
UJPK.
Absolument, UJPK et Christian Jacob, ça fait un beau mariage. Je rappelle avec nous aujourd'hui autour de la table dans ce dimanche de campagne, Avad Jamshidi, grand reporter au magazine Elle, et Ludovic Vigogne de l'Opinion, Thomas Legrand de France Inter et notre youtubeur politique Alex Darmon. Alors on va parler de ceux qu'on ne reverra plus au Palais Bourbon, ceux qui ne se représentent pas. En tout, ils sont une grosse centaine, hein, autour de 210, c'est-à-dire pas loin de 20% des 577 députés. Les têtes d'affiche, ceux qu'on ne verra plus, Jean-Luc Mélenchon, on l'a dit, Christian Jacob, Gilles Carrez, c'est vraiment des figures de l'Assemblée. Chez les Républicains, Ludovic Vigogne, voilà, il y a une page un petit peu qui va se tourner.
Oui, il y a un effet générationnel, hein, vous le disiez, il y a Christian Jacob qui était député depuis 1995, je crois, il y a Jean-Pierre Door, qui était un député du Loiret très connu sur les questions de santé, Bernard Brochand, député des Alpes-Maritimes, ça c'est des députés qui avaient fait un certain nombre de mandats, qui avaient un certain âge et qui ont décidé de passer la main. Cet effet générationnel joue aussi un peu au PS, où il y a à peu près un quart des députés qui ne se représentent pas. Et puis après, il y a d'autres facteurs, hein, qui peuvent expliquer que des députés ont choisi de ne pas revenir. Par exemple, il y a à peu près 55-60 députés sortants de La République En Marche qui ont choisi de ne pas rempiler. Ça veut dire que, d'abord, c'est plus que ce que la direction du groupe à l'Assemblée anticipé. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'il y en aurait à peu près une trentaine. Bon, il y en a quasiment le double. Et ça veut dire que la greffe venue de la société civile n'a pas vraiment pris. En 2017, il y avait beaucoup de nouveaux députés qui ne venaient pas forcément du monde politique, qui n'avaient pas forcément avant exercé de mandat.
Les amateurs, comme ils s'appelaient eux-mêmes.
Voilà. Et ça veut dire le fait qu'ils n'aient pas envie de faire un deuxième mandat, que ça n'a pas vraiment plu, qu'ils n'ont pas vraiment trouvé leur marque. Il y a des exemples fameux. Par exemple, en 2017, on mettait beaucoup en avant la personnalité de Jean-Michel Fauvergue, le patron du RAID, qui avait été élu en Seine-et-Marne. Bah, par exemple, ça fait partie de ceux qui, de la société civile, ont choisi de ne pas refaire un second mandat.
Ava.
Et pour ajouter un dernier argument à la liste que vous venez d'égrener, il y a aussi ce contexte de violence de la vie politique qui a augmenté. Il y a des chiffres du ministère de l'Intérieur qui sont assez éloquents de ce point de vue-là. Les agressions physiques contre les élus toutes catégories, ont augmenté de 47% en 2021. Parmi ces 1186 élus qui ont été victimes, il y a à peu près 162 parlementaires qui ont subi qui ont reçu des menaces de mort, qui ont vu leurs locaux, leur permanence dégradée, ce genre de choses qui ont pu dissuader en particulier ces novices, ces nouveaux députés parlementaires qui avaient fait leur entrée à l'Assemblée en 2017.
C'est vrai qu'on se souvient dans 2017 d'une arrivée de députés venant de la société civile avec une envie peut-être de changer, peut-être un peu naïve, de faire de la politique qu'autrement, et peut-être qu'au bout de 5 ans, alors il y a 2 options finalement, ça peut être on retourne dans la vie civile parce que la politique n'est pas forcément un métier qu'on va faire toute sa vie non plus, on peut faire ça 5 ans et reprendre sa vie, ou alors il y a une forme de dégoût de la manière dont ça s'est passé. Alex Darmon, vous vouliez nous parler notamment de jeunes députés marcheurs qui avaient, oui, s'est beaucoup investi sur le numérique et qui partent quasiment tous.
Oui, ça c'est assez frappant quand même, parce qu'il y a la moitié des députés qui travaillent sur ces sujets du numérique, pardon, et qui s'en vont. On pense à Mounir Majoubi, l'ancien secrétaire d'État, qui s'en va. On pense aussi à Christine Hennon, qui était présidente de Femmes Numériques, qui était une députée marcheuse aussi, pareil, qui s'en va, et tous les deux, après seulement un seul mandat. Et c'est pareil pour Paola Forteza. Moi, c'est son exemple que je trouve très intéressant, Paola Forteza, puisque c'était la rapporteure de la loi RGPD, vous savez, des protections des données. Et ce qui est commun à tous ces candidats-là et anciens marcheurs députés, c'est qu'ils ont décidé très tôt finalement de partir et d'arrêter de pas faire de second mandat. Paola Forteza, elle a dit le 16 mars dernier, c'est très tôt, c'était avant la campagne présidentielle, sur Twitter, elle a annoncé qu'elle quittait en laissant même, vous savez, une sorte de petite abécédaire pour comme guise de bilan de son mandat. Et c'était déjà le cas ce qu'avait fait Axel Le Maire à l'époque, pareil, un abécédaire. Donc il y a des codes comme ça qui se retrouvent pour les députés marcheurs numériques qui ont travaillé sur ces sujets numériques et qui ont décidé de partir. Et donc c'est une page aussi là qui se tourne, c'est quand même un peu un échec, en tout cas pour la majorité.
Alors on peut penser que ça, c'est peut-être qu'ils retournent dans le privé pour gagner un petit peu plus d'argent, on peut penser qu'ils sont déçus parce que finalement on se rend compte que le Parlement n'a pas tant de marge de manœuvre que ça. On a vraiment une pratique du pouvoir très verticale. Là,
nos institutions font que, elles ont été faites pour ça, font que le Parlement est en situation vraiment de déséquilibre par rapport à l'exécutif, ça c'est nos institutions, mais en plus la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron vertical, le fameux jupitérisme, a fait que les propositions de loi, c'est-à-dire à la différence des projets de loi qui viennent de l'exécutif, les propositions de loi ça vient des députés, du Parlement, les propositions de loi sont beaucoup plus rares, elles sont souvent téléguidées d'ailleurs par les ministères, les amendements sont souvent écrits par les ministères, et il y a une sorte de désillusion, surtout que dans le Macron 2016-2017 de la campagne, il y avait cette idée de redonner le pouvoir aux forces vives de la société, à ceux qui étaient près du terrain, aux associatifs, à ceux qui se bougeaient, il fallait faire bouger la France, et au Parlement, ils se sont aperçus que c'était pas le cas et que c'était très difficile. Et en plus, la Macronie d'un point de vue politique, la majorité, La République en Marche, n'a pas réussi à créer peut-être pas parler d'idéologie, mais d'identité, de pédigré politique propre. C'est-à-dire que les députés de base n'ont pas été mis à contribution pour essayer de préparer le programme présidentiel, par exemple, ou un programme législatif. Ils n'ont pas créé de politique. Tout venait d'en haut. Il y a une forte désillusion parmi beaucoup d'entre eux.
Je voudrais citer Gilles Carrez, dont on l'a dit, qui ne se représente pas. Il a été rapporteur du budget pendant 10 ans. Enfin, c'était vraiment une des figures de l'Assemblée, et il parle de son expérience justement de député. Il dit qu'il a toujours coopéré puisqu'il a été président de la commission des finances sous Hollande, il a travaillé avec des députés de tous bords, et il dit que ça s'est arrêté avec l'élection d'Emmanuel Macron. Les élus LREM ont eu interdiction de faire quoi que ce soit avec l'opposition. Je n'ai jamais connu une majorité aussi aux ordres. C'est un commentaire.
C'est le côté amateur qui
Ludovic de Digogne, on a le sentiment qu'il y a pas de rebelles, hein, il y a pas de frondeurs chez Macron.
Bah, ils sont partis. Hein. D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que pas mal de ceux qui sont partis, arrêtent. Je pense par exemple à la productrice de cinéma Frédéric Dumas, on parlait de Paola Forteza, Mathieu Orphelin, l'écologiste.
Alors, oui, il y a Cédric Villani qui passe.
Qui continue. Ouais. Et on voit qu'en fait, ils n'ont pas trouvé leur place au final. Voilà, ils n'ont pas trouvé leur place au sein de la majorité, au sein de la Macronie. Ils n'ont pas trouvé leur place une fois qu'ils s'y sont mis à l'extérieur.
Très bien. Parmi les sortants, on peut citer aussi Jean Lassalle, c'est son frère qui va se présenter sur sa circonscription, Bruno Le Maire qui ne se représente pas, Marie-Georges Buffet, voilà, il y a des gens comme ça
qui étaient députés depuis 1997.
Voilà. Buffet.
Ouais, bravo. Oui. Voilà, ça fait partie de ceux qui s'en vont. On va se pencher sur le RN maintenant, qui présente 551 candidats, dont Marine Le Pen, dans le Pas-de-Calais. Alors, elle n'espère pas, comme son opposant préféré, Jean-Luc Mélenchon, arriver en tête. Son objectif, ce serait d'obtenir un groupe à l'Assemblée, c'est-à-dire un minimum de 15 élus. Et en fait, ce serait historique. C'est arrivé une seule fois pour le RN, qui s'appelait le FN à l'époque, entre 86 et 88, à la faveur de la proportionnelle instaurée par François Mitterrand. 35 députés, Jean-Marie Le Pen comme chef de file, et pour France Inter, Élodie Forêt lui a demandé d'évoquer ses souvenirs.
Il est nécessaire, si j'ose dire, d'être immodeste, c'est-à-dire qu'on doit choisir toutes les occasions de faire parler de soi.
Et à l'époque, dans le casting des députés du FN, l'ancien para, Roger Olyndre, le résistant Pierre Sergent, passé par l'OAS, et dans la pratique, beaucoup d'outrances, des rappels au règlement, des altercations, jusqu'à Jean-Marie Le Pen qui chante à la tribune lors d'un débat budgétaire.
Mitran et roi, Chirac et sa reine, c'était pas la peine, c'était pas la peine, c'était pas la peine, assurément, de changer de gouvernement.
Alors ça date, hein, tout ça c'était il y a plus de 30 ans, mais les sondages promettent 20 à 45 députés au RN, actuellement ils ont 6. Qu'est-ce que ça change d'être aussi nombreux? Est-ce qu'on peut imaginer que ça va être quand même très différent de l'époque de Jean-Marie Le Pen, Avad Janchebi?
Bah, ça change quand même pas mal les choses, c'est ça permet d'être force de proposition de loi malgré tout, même si...
Oui c'est ça, quand on est un groupe, on a des niches comme ça, parlementaires...
Et vous avez la possibilité, même si elle est rare, d'être proposant, d'être aligné. Et puis c'est une tribune politique et une tribune médiatique, tout simplement, dont un Jean-Luc Mélenchon a pu bénéficier depuis 2017. Ça vous permet aussi, et ce n'est pas un détail, de faire émerger toute une catégorie de personnalités qui permettent de parachever comme ça votre conquête de votre formation politique. Je pense notamment à Adrien Quatennens, qui a émergé à la faveur de son élection en 2017, à Mathilde Panot, à Hugo Bernalicis, et vous aider à vous positionner sur des sujets, c'est ce qui manque quand même un peu au Rassemblement National qui ne bénéficie pour le moment comme tribune médiatique, je dirais quasiment uniquement du visage de Marine Le Pen, même si évidemment on a entendu de plus en plus parler de Jordan Bardella et de vieilles figures, mais si elle veut faire émerger, en tout cas elle mise sur ces élections pour faire émerger d'autres personnalités.
Il va falloir passer de la provocation à la construction quand même, Ludovic Vigogne, oui, par rapport à l'époque de Jean-Marie Le Pen.
Oui, ça sera sans doute très différent, mais il faut rappeler aussi que Jean-Marie Le Pen, il avait été député sous la 4e République, et donc oui, il avait sans doute gardé des souvenirs d'une époque où les gouvernements étaient plus instables et les majorités plus remuantes que sous la 5e République. Non, ce qui va être important pour Marine Le Pen, c'est que ça, avoir un groupe, ça va être un élément de notabilisation supplémentaire. On a bien vu pour elle que c'était encore quelque chose d'important durant sa campagne présidentielle qu'elle recherchait. Et avoir un groupe, c'est participer à la vie de l'Assemblée nationale, à la conférence des présidents du mardi matin, c'est avoir accès plus facilement, Ava le disait, à la tribune, c'est avoir des moyens, c'est quand il y a des consultations de la part du gouvernement, du président de la République, être invité, Emmanuel Macron a invité Marine Le Pen comme il a pu inviter les autres chefs de groupe, même si elle n'avait pas de groupe, parce qu'elle était patronne de parti politique. Mais là, ça vous donne un statut, et on voit bien que pour Marine Le Pen, ça reste encore quelque chose d'important. Puis il y a un autre chiffre à avoir en tête, hein, c'est 58. 58, c'est le nombre minimum de députés qu'il faut avoir pour déposer une motion de censure pour saisir le Conseil constitutionnel. Mmh. Et c'est sûr que si Marine Le Pen arrivait à avoir 58 députés, alors aujourd'hui, ça semble peu probable, mais ce serait un élément très important pour elle, politiquement.
En un mot, ça, Thomas Legrand.
Oui, 86, c'était vraiment des politiciens aguerris, l'agitprop, oui. ils avaient fait à l'OS, c'était la guerre d'Algérie, ils étaient gueulards, ils étaient là. Moi, je suis le seul à avoir un petit peu vu ça en tant que jeune adulte dans ce studio, mais c'était des personnages. D'ailleurs, à la fin, en 88, il en restait plus beaucoup au Front National. Il y en avait quelques-uns qui étaient inculpés, on disait à l'époque, il y en avait qui avaient démissionné, ils se tapaient dessus entre eux d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de familles à l'extrême droite qui se détestent. Et là,
on va voir émerger une nouvelle génération.
Oui, mais je pense pas que ça sera comme à la France Insoumise, parce que la France Insoumise, c'est vraiment un parti de conviction avec des militants bien encadrés et qui sont très politiques. Le Front National, le Rassemblement National, c'est plutôt un parti d'opinion avec un vrai chef qui a une aura comme ça, mais il y a vraiment un déficit de cadre et ils ont du mal d'ailleurs à trouver des candidats. On le voit d'ailleurs assez régulièrement sur Internet, des candidats qui se ridiculisent un petit peu. Ouais. Ils ont du mal à trouver des cadres intermédiaires qui soient vraiment politiques. Il y a le peuple qui vote ou qui ne vote pas d'ailleurs aux élections locales ou intermédiaires ou législatives. Et puis la chef qui est là à la présidentielle et qui réunit des votes, mais c'est tout quoi. Donc je ne pense pas qu'on puisse faire ce parallèle avec la France Insoumise.
Ça va vraiment être un test en tout cas. Merci. C'est l'heure de notre rendez-vous de campagne numérique. Au like citoyen. Alex Darmon, cette semaine, vous êtes intéressé à une application qui cherche à faire matcher les jeunes et la politique.
Oui, Corinne, Swipee. Alors, je ne sais pas si certains ont essayé autour de la table. Moi, j'avoue, ça m'est arrivé. Swipee, c'est de l'anglais. Ça consiste à déplacer son doigt sur l'écran de son smartphone pour provoquer une action. Swiper, c'est devenu très populaire grâce notamment aux applications de rencontres. Moi, aujourd'hui, je vous parle de swiper politiquement. C'est ce que propose de faire Élise, une jeune application politique française lancée au moment de la présidentielle. Son objectif, c'est d'aider les jeunes à comprendre la chose politique et les inciter à aller voter. Alors, comme sur les applications de rencontres, la plateforme Élise vous propose plusieurs propositions politiques selon des thématiques. Hein, ça peut être environnement, économie ou éducation, par exemple. Et vous, eh bien, vous balayez d'un côté ou de l'autre selon si vous êtes d'accord ou pas avec la proposition. Et en fonction de vos retours et de toutes vos réponses, l'algorithme créé par Élise vous dit avec quel candidat vous matchez le plus, en bon français, avec quel candidat vous avez le plus d'opinions politiques communes. Ça a été créé en janvier dernier, Élise, et ça a été téléchargé plus de 2,5 millions de fois déjà. Elle a été l'application la plus téléchargée en France durant plusieurs jours d'affilée lors de sa création. Et dites-vous même qu'elle est entrée dans le top 15 mondial des téléchargements juste avant le premier tour de l'élection présidentielle en avril dernier.
Alors Élise, hein, comme son nom l'indique, a été créée pour la présidentielle, pour l'Élysée. Donc elle a fait peau neuve pour les législatives.
Mais ah oui, après ce premier succès, les créateurs de l'appli voulaient capitaliser et poursuivre sur les législatives, sauf que c'est beaucoup plus compliqué.
C'est clair.
La présidentielle, c'était 12 candidats, c'était un peu simple, une seule élection. Là, il y a 577 circonscriptions à couvrir. Donc, forcément, la tâche est plus difficile. Il a fallu faire des choix. C'est ce que nous explique Grégoire Cascara, l'un des fondateurs d'Élise.
Pour les élections législatives, on pouvait évidemment pas recenser tous les candidats partout sur le territoire. Je crois qu'il y en a un peu plus de 6000 en France, donc c'était infaisable. Ce qu'on a fait, c'est comme pour les élections présidentielles, on a retenu les principaux groupes politiques tels que recensés comme tels par les instituts de sondage et centres de recherche. On a retenu 9 groupes politiques qui apparaissent tous de façon égalitaire, de façon neutre sur l'application.
Alors ça, c'est sur le fond, hein. Sur la forme, en revanche, pas beaucoup de changements sur l'application, juste des couleurs différentes, un chrono installé qui défile jusqu'au jour du premier tour des législatives, et aussi, il faut le dire, des kits très bien faits, pédagogiques, pour mieux comprendre à quoi sert un député, ou encore comment voter par procuration.
Alors, est-ce qu'on sait qui utilise ce genre d'application ?
Eh bien non, pour une raison simple,
ah.
Je suis désolé. Élise, bah oui, mais...
Merci d'être venu.
Je suis désolé. Peut-être, non ?
Élise, non, parce que je vous explique, Élise ne fait pas ce qu'on appelle de collecte de données.
Ah,
d'ailleurs,
c'est bien ça.
Oui, d'ailleurs, pour l'utiliser, on ne vous demande aucune information vous concernant. Ça n'a pas toujours été le cas. Au moment du lancement, l'application proposait aux utilisateurs, sans que cela soit obligatoire, de donner son âge, son territoire ou son genre. Les créateurs de l'application ont dû abandonner cette idée très vite et supprimer toutes les données collectées, car cela a été très mal perçu pour une appli politique. Maintenant, sur Élise, quand vous l'allumez, on vous informe que l'appli ne collecte aucune donnée, même anonymisée. Mmh. Les réponses que vous donnerez sont donc uniquement enregistrées sur votre téléphone, c'est très important. Vous pouvez vous-même tout réinitialiser et partir de zéro si vous le souhaitez. Pour conclure, on a voulu savoir c'est quoi l'avenir pour Élise, et j'ai demandé à Grégoire Cascara quels sont ses projets pour l'application.
Concernant l'avenir d'Élise, aujourd'hui on est complètement focalisé sur les élections législatives, mais quoi qu'on décide, ce sera de toute façon en associant tous les utilisateurs, à la fois directement sur l'appli et sur les réseaux sociaux. C'est exactement ce qu'on avait fait après la présidentielle pour inventer collectivement la suite, voir comment donner vie et continuer à donner vie au projet de la meilleure des façons pour lutter contre l'abstention et essayer de réconcilier les jeunes avec la politique.
Voilà, une réflexion pour améliorer l'appli et lutter contre l'abstention en vue des prochaines élections. Bon, ils ont un peu de temps pour se concerter, les fondateurs, la communauté, tout ça. Car je vous rappelle qu'après ces législatives, les Français ne voteront qu'en 2024 pour les élections européennes.
Merci Alex Darmon. Et puis, pour intéresser les Français aux élections européennes, ouais. Il va y avoir du boulot. Il va falloir plusieurs applis, je pense. Allez, on continue à scruter les législatives dans 2 semaines. 6293 candidats. Et sur le site de France Inter, je vous conseille la lecture d'un article passionnant. Non, âge moyen, profession, le profil des 6293 candidats donc aux législatives en 5 infographies. Alors je vous donne le portrait robot du candidat moyen, c'est un homme, il s'appelle Philippe Martin, il a 49 ans et il est cadre. Voilà, ça c'est le candidat moyen qui évidemment n'existe pas. Alors je vous ai demandé à chacun de me parler, parce qu'on va pas parler évidemment des 6293 candidats, de me parler d'une circonscription particulièrement intéressante. On va essayer de faire ça relativement rapidement. On commence avec vous Ava Jamshidi. Vous nous parlez de la 5e circonscription des Français de l'étranger.
Oui, qui regroupe la péninsule ibérique et Monaco avec un candidat, donc Manuel Valls, qui est ancien Premier ministre, socialiste donc, qui a tenté d'une aventure politique espagnole en se présentant à la mairie de Barcelone, aventure ratée donc. Et alors là, finalement, il a réussi à obtenir, à décrocher l'investiture de la majorité présidentielle, sauf que, il y a un petit souci, c'est que le député sortant, Stéphane Vojeta, qui est installé à Madrid lui depuis une vingtaine d'années, bah, il a décidé de se présenter comme dissident. Alors 80% des électeurs de cette circonscription ont voté pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. On verra donc s'ils ont envie de tourner la page de cet ancien monde que représente Manuel Valls et de cette forme d'opportunisme qu'il a montré ces dernières années avec ses différents revirements électoraux.
Alors, je dois citer les autres candidats de cette circonscription. Claire Béart, sans étiquette, Laurent Goater pour les Républicains, Marc Ridel, les Patriotes, Maria Isabel de Souza Teixeira de la gauche républicaine et socialiste, Robin Fontaine de la formation Volt, Serge Biès du RN, Garbinier et Rasso, Région et Peuple Solidaire, Renaud Lebert pour Europe Écologie Les Verts, José Sanchez Pérez, les écologistes avec la majorité présidentielle, et Nicolas Chamoux pour Reconquête. Avec vous, Ludovic Vigogne, on part dans l'Essonne, la 9e circonscription. Il n'y a pas de star, je crois, dans cette circo, comme on dit.
Non, mais j'ai trouvé que c'était une circonscription qui révélait bien ce qui allait se passer et les enjeux du scrutin de juin. La 9e circonscription de l'Essonne, ça fait partie des 56 circonscriptions qui sont détenues par un député macroniste, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au soir du premier tour de la présidentielle. Elle est détenue par la députée Marie Guévenoux, qui avait été très facilement élue en 2017, face à une candidate LR. Là, il est probable qu'elle se retrouve face au candidat de la NUP au second tour, et ça s'annonce extrêmement serré, et elle peut être en grande difficulté s'il y a une forte poussée mélancholiste. Et pour cela, et pour se faire réélire, elle aura besoin de renfort des électeurs LR, et on voit bien que dans beaucoup de circonscriptions, pour s'en sortir, les députés macronistes auront besoin de l'aide des Républicains.
Alors, on cite également les autres candidats, Lionel Mazurier pour Debout la France, Philippe Stens pour le RN, Antonin Bernard du Parti Animaliste, le Parti Animaliste qui présente pas mal de candidats cette année, Michel Benamou sans étiquette, Faten Idri de l'Union des démocrates et des indépendants, Paul-Henri Mérien de Reconquête, Benoît Grisot, Lutte ouvrière, Nadera Belletrèche pour la NUP. Allez, on va passer maintenant au Bobineau de Thomas Legrand. Je vous fais juste un dernier petit point sur le sparadrap du gouvernement Borne. Hein, Damien Abad, à peine nommé ministre, accusé de viol par deux femmes. Une des plaintes déjà classée sans suite en 2017. Le parquet, à ce stade, on l'a dit, qu'il n'ouvre pas d'enquête. Circuler, il n'y a rien à voir. Pas forcément si simple. En tout cas, l'affaire risque de continuer à ternir les débuts du gouvernement Borne. Et on revient un petit peu dans le passé, mais on reste dans le thème de ces accusations contre Damien Abad. Avec vous, Thomas Legrand.
Oui, je voulais vous faire écouter des réactions qui recouvrent assez bien ce que l'on entendait à l'époque, en 2011, au moment de l'affaire Strauss-Kahn, juste pour se remémorer le déséquilibre entre la parole de la victime et celle de l'agresseur présumé en matière de viol. D'abord, écoutez deux proches du directeur général du FMI de l'époque, donc François Pupponi et Christophe Borgel, lors d'une émission de télévision au moment de l'audition de Fissatou Diallo.
Accusé de Dominique Strauss-Kahn de viol, c'est tout simplement pas possible.
Vous l'avez dit dès le début.
On le connaît tellement. Je répète, en 20 ans, je ne l'ai jamais vu avoir une parole déplacée envers quiconque, une violence verbale envers quiconque. Dès le début, la version de la femme, pour moi, qui le connaît bien, ne tenait pas. Alors,
ma conviction depuis le début, c'est que Dominique Strauss-Kahn est parfaitement innocent de toutes les accusations qui ont été portées à son encontre. Et je crois qu'honnêtement, même si j'entends, il faut être prudent en attendant la vérification de l'ensemble des éléments. J'espère que maintenant, très vite, on aura un Dominique Strauss-Kahn recouvrant son honneur et sa liberté totale.
Aucun doute, hein, c'est quand même incroyable, aucun doute. Et maintenant, les commentateurs, Yvan Levaille chez Pascal Clark, alors c'est plus qu'un commentateur, hein, parce qu'il est aussi le premier mari d'Anne Sinclair et ami de Dominique Strauss-Kahn.
Est-ce qu'il m'est arrivé à moi de sortir tout nu de ma salle de bain, une chambre d'hôtel? Et oui, ça m'est déjà arrivé, en entendant du bruit. Mais mon éducation et mon attitude naturelle, qui est probablement la vôtre aussi, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on dit, oh, pardon, on referme la porte, on met un peignoir et on ressort. Et puis maintenant, j'ai pensé à... Quelqu'un entre dans la chambre d'hôtel, Madame Nafissatou Diallo. Elle entre, elle voit un homme tout nu. Logiquement, qu'est-ce qu'elle doit faire? Même chose, elle referme la porte et elle sort. Et là, c'est incroyable, les deux sont restés et il y a eu une relation. Moi, je crois pas au viol, hein.
Voilà, c'est clair. Et ce commentaire de Jean-François Kahn.
Je suis certain, enfin pratiquement certain, qu'il n'y a pas eu une tentative violente de viol. Je ne crois pas, ça. Je connais le personnage, je ne pense pas. Qu'il y ait eu une imprudence, on ne peut pas le... je ne sais pas comment dire. Un troussage. Qu'il y ait un troussage de domestique, ben, je veux dire, ce qui n'est pas bien.
Alors on connaît Jean-François Kahn, on connaît aussi Yvan Levagne, ils ont toujours défendu le féminisme, mais ces commentaires témoignent de la réalité de ce que les féministes d'aujourd'hui appellent la culture du viol, encore présente et ancrée dans la société jusqu'à ces dernières années. Ces mots avaient choqué à l'époque, Jean-François Kahn les avait regrettés, dit qu'on les avait sortis de leur contexte. Aujourd'hui, ils sont heureusement imprononçables, évidemment, preuve d'une profonde et salutaire bouleversement quand même que nous vivons depuis MeToo.
Petite réaction autour de la table, on est tous un petit peu effarés.
C'est incroyable.
On l'a vécu pourtant,
ça,
hein. 2011, c'est pas si vieux.
On l'a vécu, mais c'est bien de mesurer.
On
n'oserait
plus, c'est-à-dire peut-être que des gens pensent encore ça, mais en tout cas ne le disent plus.
C'est
impossible de tenir de tels propos aujourd'hui. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment on réécoutera dans 10 ans les réactions qui sont proférées aujourd'hui par des membres de la majorité au sujet de l'affaire Abad, puisque l'essentiel des arguments qui sont invoqués par toutes ces personnalités, y compris par le chef de l'État, porte sur le dénouement de l'enquête judiciaire. Mais il y a un autre aspect,
tant
qu'il n'y a pas de condamnation, tant qu'il n'y a pas d'enquête ou de mise en examen, circuler, il n'y a à peu près rien à voir. Sauf que cette enquête de Mediapart a mis quand même à jour des comportements dont on peut considérer qu'ils sont répréhensibles. Des SMS de ce qu'on appelle de drague lourde, enfin, et ce qui a été qualifié comme tel par des responsables des Républicains. Et donc on peut s'interroger si ces simples faits ne suffiraient pas finalement à se départir de la présence d'un...
Oui, il y a la loi et la morale.
Et d'ailleurs, Emmanuel Macron le sait, rappelez-vous l'affaire François de Rugy. François de Rugy, donc, lorsqu'il était ministre de la Transition écologique, a vu une affaire sortir sur sa propension et son tropisme pour les homards dont
se délectait
lorsqu'il était à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu de condamnation judiciaire et pour autant, là, la question de sa démission ne s'est pas posée.
Ludovic Vigogne, effectivement, sur cette question. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est qu'à chaque fois, finalement, tout le monde se sent obligé de dire « Je respecte la parole des femmes, c'est très important, mais il y a la présomption d'innocence, mais ça devient maintenant un préalable. On peut absolument plus dire « Non, mais qu'est-ce qu'elle est allée faire ? C'est une gourgandine, etc. » Tout ce qu'on veut, ça, c'est plus possible.
Non, ça c'est sûr, mais c'est sûr que c'est un entre-deux très compliqué à gérer en ce moment pour le gouvernement. S'il y avait eu l'ouverture d'une enquête judiciaire, peut-être ça aurait été le moyen de sortir, d'exfiltrer Damien Abad du gouvernement. Là, il n'y en a pas eu, donc il n'y a pas eu... Emmanuel Macron a fait le choix pour l'instant de lui garder sa confiance, mais ça fait des dégâts sans doute, ça complique les choses, et puis, en plus, Damien Abad est un peu esselé dans toute cette histoire, il vient des LR, il a peu d'appui au sein du nouveau gouvernement.
Oui, ses anciens amis ne le soutiennent pas et
il se fait attaquer par les anciens, vous le disiez, et donc c'est effectivement une situation très compliquée.
Est-ce que finalement, s'il perdait aux élections législatives, puisqu'on sait qu'il se présente, ça pourrait être une manière facile de s'en sortir pour le gouvernement, puisqu'on sait que les ministres qui perdent devront se retirer.
Ce serait glorieux pour personne, mais effectivement.
Puisqu'il a dit lui-même, ce sera pour aux électeurs
autre,
de juger.
Il partirait pour une autre raison que celle pour laquelle il est aujourd'hui accusé. Après, il est aussi probable qu'il soit réélu.
Ça laissera des traces, quoi qu'il arrive, de toute façon. Et d'ailleurs, on le voit, il en joue sur les réseaux quand il communique. Il communique très peu autour de son rôle de ministre. Et là, il reprend au bout de 10 jours, alors qu'il était très très actif sur les réseaux sociaux, il reprend au bout de 10 jours, simplement pour mettre des images et montrer son action sur le terrain pour la campagne législative. Il fait que ça, il y a comme un malaise au sein de son entourage.
Et comme parallèlement, on revient au début de l'émission, il n'y a pas de politique, puisque la stratégie
L'espace est occupé par cette affaire.
Un point, une exfiltration de Damien Abad par la défaite serait sans doute très mauvaise et préjudiciable aussi pour Emmanuel Macron, qui a souhaité mettre en valeur et qui a décrété la cause de l'égalité entre les femmes et les hommes comme l'une des plus importantes de ce quinquennat pour la deuxième fois. Pour ce gouvernement prétendument féministe, ce serait pas super.
Alors en une phrase, merci pour refermer ce dimanche de campagne. On se projette sur la semaine prochaine, on suppose peut-être que l'affaire Abad aura encore quelques développements. Vraiment, en deux phrases, qu'est-ce qu'on attend la semaine prochaine, Avad Jounchibi?
Un déplacement jeudi à Marseille du chef de l'État qu'on va un peu plus voir cette semaine. Mais là, à Marseille, il sera en compagnie de la surprise de ce nouveau gouvernement, Pap Ndiaye, donc ministre de l'Éducation, avec qui il va faire un déplacement autour de dispositifs qu'ils vont présenter à cette occasion.
On va suivre ça de très près. Je suis obligée d'arrêter là. Merci à tous.
ne vous résignez pas.
Nous lançons ce soir la grande bataille des législatives.
Le troisième tour commence ce soir.
Je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
Vive la République ! Vive la liberté !
Vive l'écologie !
Vive la France !